Rebonjour. Avant de débuter le message, je vous propose qu'on puisse remettre ce moment dans la prière. Père Céleste, merci parce que, comme ça a été rappelé ce matin, tu es le chemin, la vérité et la vie. Cette vie que tu nous donnes en abondance, cette vie dans laquelle on peut puiser. Tu es aussi celui qui nous délivre, celui qui nous permet de marcher jour après jour. Et Seigneur, nous avons besoin de plus te connaître, de plus vivre, Seigneur, tout ce que tu nous as acquis à la croix. Et on te demande d'ouvrir nos cœurs, on te demande de nous rendre sensibles à ta parole. En ton nom. Amen. Jésus, le Christ, et alors ? Peut-être que cette question est évidente pour vous, mais peut-être moins évidente. Et pour essayer de répondre à cette double question, je vous propose ce matin de prendre un texte très connu, très discuté, un texte de Matthieu, au chapitre 16, et on va lire les versets 13 à 20. Matthieu 16, versets 13 à 20. Mais avant de lire le texte, je vous propose qu'on s'arrête un petit peu sur le contexte, et plus précisément sur trois différents contextes. Le premier contexte sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, c'est le contexte biblique, c'est-à-dire dans quel cadre se situe ce texte. Et on va voir dans le livre de Matthieu, quand on regarde un petit peu avant et un petit peu après, on voit que ce texte se situe entre, d'un côté, la critique des pharisiens, qui réclament des miracles, sans vraiment d'ailleurs montrer de l'intérêt à Jésus, et d'un autre côté, ce texte se situe juste avant la description de ce qu'est les vrais disciples, ce que sont les vrais disciples. Comme si c'était l'explication pour passer de l'un à l'autre. Le deuxième contexte, c'est le contexte de la vie de Jésus. Voilà, contexte de la vie de Jésus. Et si on prend un petit peu la vie de Jésus, voilà, vous avez reconnu bien sûr la vie de Jésus ici, avec la naissance, d'accord, sur terre, et le moment dont on parle, donc qui va se passer, et on va voir par la suite, dans un endroit très précis, c'est-à-dire à Césarée de Philippe, d'accord. Et l'endroit là qui se passe ici, c'est un petit peu le moment de bascule dans le ministère de Jésus. On voit que juste avant, Jésus est en pleine ascension de notoriété publique. Tout le monde veut le voir, tout le monde veut le rencontrer. Mais à partir de ce moment-là, il va révéler sa véritable identité. Et cela va le conduire vers de plus en plus de rejets, et on voit la descente, qui descend, jusqu'à sa mort à Jérusalem, pour le motif même de son identité. Et bien sûr, ensuite, il ne s'est pas arrêté là, bien sûr. Mais quelque part, ce texte est le tournant de la vie terrestre de Jésus. Dernier contexte, le contexte géographique. Alors, on a parlé, ça se passe à Césarée de Philippe. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais je vais vous faire participer. Où est Césarée de Philippe? Alors, en haut où? À gauche ou à droite? Combien il y en a qui disent que c'est à gauche? Ok. Ok, combien à droite? Ok, très bien. Au centre? Ok. Alors, il y a un piège. Parce qu'il y a deux Césarées. Il y a Césarée, qui était d'ailleurs une ville beaucoup plus importante que Césarée de Philippe, située près de la mer. Mais il y a Césarée de Philippe, qui est en haut, là-haut, tout en haut. Et Césarée de Philippe est donc là-haut tout en haut, et à côté de Césarée de Philippe, il y a une montagne. Le mont Hermon. Voilà, c'est pas juste pour ça que j'ai choisi le texte, hein. Mais il y a le mont Hermon. Et le mont Hermon, sur le mont Hermon se situe une des principales sources du Jourdain. Alors, le Jourdain, voilà. Il y a la vallée du Jourdain, donc il prend sa source à Césarée de Philippe et il vient se jeter dans la mer Morte. Deux remarques par rapport à cet aspect topographique. Il est intéressant de constater que le Jourdain signifie « celui qui descend » du mont Hermon, comme on l'a vu, jusqu'à la mer Morte, proche de Jérusalem. Et d'ailleurs, la vallée du Jourdain est une des seules vallées qui descend tellement en altitude que le Jourdain se jette dans la mer à plus de 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Et quelque part, c'est aussi une image du trajet de renonciation et d'humiliation que Jésus a suivi en descendant du ciel pour le mener jusqu'à la mort à Jérusalem. Deuxième remarque, Césarée de Philippe est l'emplacement donc de la source du Jourdain. Et ce que va enseigner Jésus ici devrait être également la source, l'origine de notre vie de chrétien, c'est-à-dire l'identité véritable de Jésus. Je vous propose qu'on lise le texte, Matthieu 16, versets 13 à 20. Même si le texte est affiché, je vous invite bien sûr à l'apprendre dans vos Bibles. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors, ce texte est excessivement riche. Et ce matin, on ne va pas tout aborder. Je vous propose ce matin qu'on s'arrête sur l'élément principal de ce texte, sur le « qui suis-je » de Jésus. Et même si elles sont multiples, de nous arrêter ensuite sur deux conséquences qui en découlent et que l'on peut observer dans le texte. Qui suis-je ? Et on voit qu'il y a plusieurs réponses dans le texte. La première réponse, c'est pour les hommes. Et on voit que les réponses sont diverses. Certains vont dire qu'il est Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, il y a une connotation, c'est le prophète de la Nouvelle Alliance. Certains vont dire que c'est Élie. Élie, c'est un puissant prophète de l'Ancien Testament. Peut-être d'ailleurs un petit peu moins puissant que Moïse, quelque part, mais bref. Peut-être c'est Jérémie ou un autre prophète. Pour les hommes, c'est certain, c'est un homme de Dieu, mais pas plus. On lui reconnaît des qualités, des paroles qui viennent de Dieu, mais cela s'arrête là. Et quelque part, ça me renvoie un petit peu à une pensée, c'est que, moi qui suis fils de chrétien d'ailleurs, et en plus mes parents sont là ce matin, il est quand même important de se faire sa propre opinion de qui est Jésus. Et de ne pas rester sur celle de ses parents ou celle de ses amis, car leurs opinions peuvent être erronées ou peut-être déformées. Et il est important de se faire sa propre opinion de qui est Jésus. Qui est Jésus pour les apôtres ? Simon-Pierre va répondre. Mais Simon-Pierre va répondre non pas comme Simon-Pierre, il va répondre comme le représentant des 12, puisque la question est posée aux 12 apôtres. Et il va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est une expression qui n'est pas anodine pour un juif. Deuxième partie de l'expression, fils du Dieu vivant, qui renvoie à la première, puisque fils du Dieu vivant est une expression qui dans les textes prophétiques, renvoie au Christ. Donc je vous propose qu'on s'arrête sur la première partie de l'expression qui est « tu es le Christ ». Christ est le terme, est un mot grec qui est le même, enfin, qui signifie en hébreu Messie. D'accord? Quand vous voyez Christ ou Messie, ça a la même signification. Et Messie en hébreu veut dire loin, en deux mots. C'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. Quand on regarde dans les Écritures, on peut voir qu'il y a trois catégories de personnes qui sont appelées les oints. Il ne faut pas faire la liaison là. Et je ferai juste une petite parenthèse de pub. Voilà. Pour ceux qui souhaitent approfondir les choses et qui sont un petit peu comme moi, qui ont un petit peu du mal avec les bouquins et qui ont un petit peu du mal à ouvrir un livre de théologie où il faut un deuxième livre, voire un troisième livre de théologie pour pouvoir comprendre ce qui est dit dans le premier livre, je vous invite vraiment à vous pencher sur ce livre qui est, pour une fois réfléchi, qui a été écrit sous la direction d'Alain Nisus, et entre autres, il y a beaucoup d'auteurs, et entre autres un certain Daniel Mattioli. Voilà, j'arrête la page de pub, pour une fois réfléchi. Alors, les trois catégories de personnes. La première catégorie sont les sacrificateurs. Et on voit ça en Exode 28, au verset 41, où Dieu demande à Moïse d'oindre les sacrificateurs lors de leur investiture. Donc c'est Dieu qui parle à Moïse. Tu en revêtiras ton frère et ses fils. Pardon. Tu leur donneras l'onction. Tu les investiras, tu les sanctifieras, et ils exerceront pour moi le sacerdoce. Donc la première catégorie de personnes qui reçoit l'onction, d'accord, qui sont les oints, les messies, quelque part, sont les sacrificateurs. Les deux catégories, on va voir dans le verset que je vous propose, de 1 Roi 19, versets 15 et 16, les deux autres catégories. L'Éternel parle à Élie et lui dit « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Béola, comme prophète à ta place. » La deuxième catégorie sont les prophètes. Ici, on voit que Élisée reçoit l'onction. Et la troisième catégorie sont les rois. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous a un peu titillé là dans le texte? On voit qu'il y a les rois, oui. On voit qu'il y a les rois d'Israël, mais aussi les rois non-juifs. Et pour les rois d'Israël, on voit par exemple quand Saül a été investi, Dieu demande à Samuel « Demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. » Quelle mission ! Saül, avant qu'il ne tourne mal, bien sûr, avait été choisi par Dieu pour être le conducteur et le sauveur d'Israël. Et d'ailleurs, on voit que David respectait énormément ce choix de Dieu. Mais on voit également, comme je le disais précédemment, que ça concerne aussi les rois non-juifs. Alors on voit Hazaël dans le texte, qui était un Syrien. On voit aussi, en Ésaïe 45, Cyrus le Perse, qui est même appelé le Messie de l'Éternel. Et quelque part, quand on reprend la définition du Messie, qui est où Dieu confie la destinée de son peuple à un homme, d'accord ? Et on voit par la suite que Cyrus va rendre la liberté au peuple en les laissant repartir de l'exil. En synthèse, on pourrait dire que le Christ est celui qui a été choisi par Dieu pour une mission particulière, celui à qui Dieu a confié ses intérêts. Première remarque là-dessus. Vous l'avez sûrement remarqué, mais le nom Jésus-Christ, avec un petit tiret entre les deux, n'est pas un prénom composé, n'est pas non plus un nom et un prénom, mais c'est un raccourci qu'on a utilisé depuis très longtemps et qui signifie Jésus, le Christ, et qui est rentré dans le langage de la chrétienté. Et l'inconvénient, je trouve, c'est que cela a peut-être amoindri le sens fort du fait que Jésus est le Christ, celui à qui Dieu a confié ses intérêts. Deuxième remarque, je ne sais pas si ça vous a déjà frappé, mais on voit à plusieurs endroits dans les évangiles que Jésus souhaite rester discret sur son identité. Il ne veut pas que ça se répande. Et quand on regarde un petit peu les choses, on s'aperçoit que la compréhension à l'époque, la compréhension populaire de l'époque attendait un messie terrestre, c'est-à-dire essentiellement politique et guerrier, pour les délivrer des Romains. Et Jésus souhaite donc, en restant discret sur son identité, éviter un soulèvement populaire inadapté avec la mission céleste et spirituelle qu'il était venu accomplir. Je referme la parenthèse. Venons-en à chacun d'entre nous. Qui est Jésus pour toi, pour moi ? Alors cette question, elle est loin d'être anodine, puisque c'est la question la plus importante pour l'humanité. C'est la question qui va être posée par Dieu à chacun d'entre nous quand il arrivera devant le trône de Dieu et qui va décider de la suite. Alors Jésus, est-ce un prophète ? Si on reprend cette triple explication de tu es le Christ, un prophète, un sacrificateur, un roi. Est-ce un prophète ? On a parlé de Bouddha ce matin, on a parlé de vérité ce matin. Est-ce que Jésus est un philosophe ou un penseur qui a influencé positivement l'humanité ? Type Gandhi, Bouddha, Nelson Mandela, quelqu'un qui dit des choses bien, quelqu'un qui dit des choses intéressantes, qui pousse les autres à s'aimer ? Ou bien est-ce que Jésus est le prophète par excellence, celui qui a les paroles de la vie éternelle et que tu cherches à écouter par-dessus tout ? Est-ce que Jésus est un sacrificateur ? Un homme consacré qui aide les autres dans leur quête de spiritualité ? Ou bien, comme nous l'explique très bien l'auteur de la lettre aux Hébreux, il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Hébreux 7, versets 23 à 27. J'en ai lu qu'une partie. C'est-à-dire que Jésus serait ton sauveur, celui dont le sacrifice te pardonne toi, personnellement, et qui te délivre de la mort et de ton péché. Ce sauveur qui te délivre également de ces péchés qui peuvent encore t'emprisonner. Est-ce le roi de ta vie ? Un roi qui, malheureusement, serait mort avant de régner ? Ou bien ce roi ressuscité dont tu as accepté le règne sur ta vie et à qui tu te soumets jour après jour ? Tu soumets jour après jour les choses qu'il te révèle. Ce roi dont tu acceptes la transformation intérieure qu'il te propose et auquel tu te soumets. Ce roi qui t'appelle également à son service. Alors quelle est votre réponse ? Est-ce pour toi les trois à la fois ? C'est-à-dire que Jésus est le Christ par excellence. Il est celui qui cumule les trois fonctions parfaitement, mais là il cumule les mandats pour une bonne cause. à la fois prophète de Dieu, c'est celui qui va te révéler le cœur du Père, à la fois ton souverain sacrificateur qui te lave une fois pour toutes de ton péché à la croix et te justifie pleinement, et également le roi de ta vie qui a le pouvoir de régner et de prendre autorité sur tous les domaines de ta vie qui t'emprisonnent, mais sans jamais attendre ton accord et ton adhésion préalable. Quel amour, quelle patience. Alors pour finir cette partie, je t'invite à réfléchir, ou peut-être à re-réfléchir à cette question, qui est Jésus pour toi ? À toi de répondre à cette question. Alors l'affirmation que Jésus est le Christ a changé, on l'a vu dans la courbe de la vie de Jésus, a changé, même si cela a été prévu, la vie terrestre de Jésus. Elle a changé aussi le cours de l'existence des apôtres. Et elle peut aussi changer la vie de chaque homme, chaque femme, si Jésus en est la source. Pour résumer, c'est cette affirmation que Jésus est le Christ dans toute sa plénitude qui doit être la source de ta vie personnelle. C'est une réalité qui change la vie et qui va aussi te pousser naturellement à faire des choix de vie et également à entrer en action pour le servir. La manière dont tu considères Jésus dans ta vie va donc avoir des conséquences, et nous allons nous arrêter sur deux d'entre elles qui sont à la fois individuelles mais à la fois collectives. Alors les conséquences, on le voit dans le texte, la première conséquence, Jésus va dire à Pierre, tu es heureux. Et des fois, je me demande si vraiment je réalise le privilège que j'ai. Si je n'ai pas tendance un peu à oublier ou bien à remplacer cela par d'autres préoccupations, alors des fois, très bien, hein, on fait plein de choses bien. Et si quelque part l'essentiel ne serait pas de s'arrêter ? S'arrêter pour reconsidérer le fait que Jésus est le Christ de ma vie et que je peux me réjouir simplement de cet état de fait. Nous pouvons donc nous réjouir d'être au bénéfice de cette joie profonde qui ne dépend pas des circonstances ou de notre mérite, mais que nous pouvons puiser quotidiennement à la source de notre vie nouvelle, qu'est Jésus le Christ. Et c'est intéressant de voir que tout de suite, Jésus va mentionner pour la première fois l'Église. Comme si le plan de formation du chrétien, qui vient de confesser Jésus comme le Christ, passait par l'Église. Jésus va parler de responsabilité, là, avec cette expression, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, ou des fois c'est traduit ce roc, je bâtirai mon Église. » Quelle est cette pierre dont parle Jésus ? Ce passage est très controversé dans la chrétienté. Les catholiques justifie l'institution de la papauté par cette parole de Jésus, comme quoi Pierre serait le premier pape. Alors essayons de décortiquer un petit peu les choses. Quand on regarde dans les passages parallèles qui racontent la même histoire que dans Matthieu, donc dans Marc 8 et Luc 9, on voit que les évangélistes, donc Marc et Luc, ne font pas mention de cette parole de Jésus. Et il reste uniquement sur l'affirmation de l'identité de Jésus, comme si l'essentiel se situait plutôt sur l'identité de Jésus plutôt que sur cette mention de l'Église. Alors en français, il y a un jeu de mots, puisque c'est dit « tu es Pierre » et sur cette pierre, mais il y en a aussi un en grec, puisque les mots sont traduits, puisque bien sûr le grec est la langue d'écriture du Nouveau Testament. Le premier mot employé est « pétros », qui veut dire « pierre », et le deuxième mot est « petra », qui veut dire « roc ». Donc les mots sont proches, mais différents, ce qui n'est pas le cas en français. Donc il y a un sens qui peut être distingué entre Petros, Pierre, et Petra, le roc. Deux raisons pour lesquelles on ne peut pas considérer Pierre comme la pierre de fondement, dont par Jésus. Quand on regarde dans les Écritures, on voit que le roc se rapporte toujours à Dieu et non à un homme. Toujours. Que ce soit dans les psaumes, que ce soit aussi dans le Nouveau Testament. On voit dans le passage de 1 Corinthiens 10, verset 4, quand Paul parle des Hébreux et qui dit, sur l'épisode du désert, « Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. » Le roc se rapporte toujours à la divinité et jamais à un homme. Première raison. Deuxième raison, en Éphésiens 2, versets 20 à 21, on voit que Paul explique et va plus loin. Et donc il parle aux Éphésiens et donc à tous les chrétiens. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Ainsi, le roc dont Jésus parle est non pas un homme, mais l'enseignement des apôtres comme fondement et plus particulièrement la confession de Pierre que Jésus est le Christ. Vous m'avez suivi ? Ainsi, l'Église est l'association de tous ceux qui confessent Jésus comme le Christ. Alors Jésus parle ici de l'Église universelle, mais il me semble qu'on peut également l'appliquer à l'Église locale. Pas le bâtiment, bien sûr, même si on passe beaucoup d'énergie en ce moment à refaire le bâtiment, l'essentiel n'est pas là. L'Église locale, c'est l'association de tous ceux qui confessent Jésus comme leur Christ et qui se réunissent rue Sonnera. Alors, je bâtirai mon Église. J'attire notre attention ici sur le fait que Jésus ne va pas dire « Je bâtirai votre Église ». Signifiant que Jésus bâtirait une Église qui appartiendrait aux hommes, pourquoi pas aux anciens ou aux pasteurs, ou à certains membres de l'Église avec peut-être un plus gros portefeuille que les autres, et que nous n'aurions rien à faire puisque Jésus bâtirait tout et nous on aurait juste à passer du bon temps ensemble. Jésus ne va pas dire non plus « Vous bâtirez mon Église » ou au contraire, Jésus aurait tout délégué aux hommes en se retirant et en nous laissant nous débrouiller tout seuls. L'expression est « Je bâtirai mon Église ». Jésus est ou devrait être en tout cas le propriétaire et l'acteur principal de l'Église, c'est-à-dire celui qu'on laisse agir, au lieu de dire « T'inquiète pas Seigneur, je bâtirai ton Église ». Quelque part, cette expression « je bâtirai mon Église » est aussi extrêmement rassurante. Car l'Église n'est pas une association humaine, loi 1901, mais plutôt une association divine où tout devient possible. Alors, quelle est alors précisément notre responsabilité si ce n'est pas de bâtir l'Église ? Henri Blocher a écrit « L'Église est le fruit de ce que nous n'avons pas fait, mais que Dieu a accompli en Jésus-Christ. » Il faut donc considérer l'Église comme le résultat de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire son peuple racheté. Et dire ensuite que ce résultat de l'œuvre de Dieu que nous sommes reçoit de lui un mandat, un ordre ou une mission à accomplir. Cette mission de l'Église est d'ailleurs une grâce supplémentaire, car ainsi Dieu nous associe à son œuvre. L'Église est le résultat de l'œuvre de Dieu. Je vous invite à nous regarder les uns les autres ce matin et tous les jours comme le fruit de l'œuvre de Dieu. Et quelque part, ça serait nous regarder les uns les autres comme Dieu nous voit, avec le regard de Dieu. N'est-ce pas une perspective formidable? Pour revenir à notre question, notre rôle est donc d'être l'Église, c'est-à-dire de nous laisser travailler, transformer et de regarder ensemble vers la même direction. Ça, c'est la théorie. Et ce n'est pas forcément évident. Pierre, encore lui, emploie une expression pour nous qualifier. Il va parler d'être des pierres vivantes. 1 Pierre 2, verset 5. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » L'Église est un édifice spirituel et nous sommes ces pierres vivantes. Comment vous faites pour faire un mur avec des pierres qui bougent? Je ne suis pas un manuel, hein. Vous le savez. Hein. Mais alors là, je crois qu'il y a une énigme. Ou alors, il faut me dire, quelle marque de ciment vous utilisez? Il y a un truc. Ou peut-être c'est dans le dosage de l'eau, hein Patrick, dans le dosage du ciment et de l'eau. Je vous propose un parallèle qui vient de mon expérience professionnelle, pour essayer d'expliciter un peu ça. Alors, je travaille dans les produits chimiques, et plus particulièrement au niveau de lubrifiants spéciaux pour l'industrie et des colles pour l'industrie. Et ma société, bien sûr, comme toutes les sociétés en ce moment, cherche des secteurs porteurs pour se développer et a choisi de se lancer auprès des industries chimiques. Alors, heureusement ou malheureusement, il semble que cela fasse partie des industries non délocalisables de France à l'heure actuelle, et donc porteuses. Une des contraintes que nous avons identifiées, alors excusez-moi, je fais un peu de marketing là, désolé. Mais quelque part, une des contraintes que nous avons identifiées, c'est l'étanchéité des bacs de rétention en cas de fuite. Puisque si, il y a Yves qui me regarde, il sait exactement de quoi je parle. S'il y a une fissure ici ou s'il y a une fuite, tout le produit chimique qui est à l'intérieur se retrouve à même le sol. Et donc, ils ont construit autour ce qu'ils appellent des bacs de rétention. Et ces bacs de rétention sont en béton. Et le problème est que ces bacs de rétention, ont tendance à se fissurer. C'est un petit peu moins bien, tout de suite. Et désolé pour les maçons, mais les réparer avec du ciment n'est pas suffisant, car les fissures réapparaissent en fonction du taux de remplissage qu'il y a dans les cuves et qui exerce une pression différente sur ces bacs de rétention. Et également des mouvements de terrain, puisque beaucoup d'industries chimiques sont placées au bord des rivières ou au bord des ports, au bord des mers, là où c'est des terrains sablonneux, donc qui ont tendance à bouger. Et ils sont placés à ces endroits-là aussi pour des questions de transport maritime. Alors, comment on fait ? Quelque part, la contrainte est double, car il faut que le produit d'étanchéité utilisé soit à la fois assez flexible pour absorber les mouvements de terrain et à la fois assez résistant aux produits chimiques. Et aujourd'hui, il n'existe que deux types de produits, soit des produits assez souples pour absorber les mouvements de sol, mais qui ne résistent pas aux produits chimiques. Soit il existe des produits qui résistent aux produits chimiques, mais qui sont trop rigides pour absorber les mouvements de sol. Le défi est donc de trouver le produit qui va cumuler cette caractéristique de souplesse et celle de résistance aux agressions chimiques pour que le bac puisse rester étanche dans le temps. Si vous souhaitez savoir ce que c'est, venez me voir à la fin. Est-ce que vous me voyez venir? L'Église est donc composée de pierres vivantes qui, par définition, bougent les unes par rapport aux autres. Et pour peu, ce qui n'arrive jamais bien sûr, hein, que le mouvement ne soit pas parfaitement coordonné, des fissures vont se former. Parce que, par exemple, l'un va dans une direction opposée à un autre, parce que l'un préfère la manière de faire qu'on a toujours fait et l'autre aimerait faire un peu trop bouger les choses, parce que l'un est plus enseignement et l'autre plus adoration, etc., 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 etc. Rajoutez par-dessus un peu d'agression extérieure de l'ennemi, ou bien des sursauts de notre vieille nature, et voilà. Ça bouge et il y a des fissures. Notre défi en tant que membre d'église, tant au niveau personnel que collectif, est de rechercher l'étanchéité divine, celle qui va nous permettre de réparer les fissures et de résister ensemble, quelle que soit l'adversité. Cette étanchéité divine a pour formulation chimique le pardon donné, mais également demandé. L'amour de Jésus-Christ qui va déborder et nous pousser à aimer l'autre, même s'il est diamétralement opposé à nous, à accueillir les nouvelles personnes, à s'encourager mutuellement, à marcher dans la même direction et à la même allure. En d'autres termes, le ciment idéal, c'est Jésus le Christ réellement maître de ma vie. Le ciment idéal, c'est Jésus le Christ réellement maître de ma vie. Et quelque part, si Dieu est à l'œuvre dans chacune de nos vies personnelles, il pourra l'être naturellement et puissamment dans l'Église. Je nous invite donc à regarder dans un premier temps, et l'ordre est primordial et très important, notre Église comme premièrement la conséquence naturelle de ce que Dieu fait dans les cœurs de chacun d'entre nous. Pour pouvoir accomplir ensuite, dans un deuxième temps, les buts de l'Église. Quels sont-ils, ces buts? On l'a vu il y a quelques mois en arrière, et je les rappellerai. Les quatre buts de l'Église: rendre un culte à Dieu et exprimer notre reconnaissance de connaître Jésus comme le Christ, et toutes les personnes qui sont heureux comme Pierre et qui ont cette joie profonde à laquelle ils peuvent puiser jour après jour. Deuxième but de l'Église, c'est s'édifier via l'enseignement, via la prière, via le partage. C'est le lieu où on va grandir ensemble pour le service. Troisième but, proclamer l'Évangile. Être témoin de Jésus, personnellement, mais aussi en tant qu'Église, via les restos-conférences, les kermesses, fêtes de Noël, les présences au marché, et j'en passe, c'est des meilleurs. Dernier but de l'Église, être un peuple solidaire, uni par des liens fraternels qui vont s'exprimer concrètement dans la communion fraternelle. Et cette communion fraternelle va grandir uniquement avec le temps passé les uns avec les autres. Pour conclure, l'Église, comme nos vies personnelles, sont à bâtir en Jésus le Christ. Dieu nous veut comme co-ouvriers, mais non comme maîtres d'œuvre autosuffisants. Que cela soit au niveau collectif, c'est-à-dire au niveau de l'Église, mais tout d'abord au niveau personnel. Il nous veut à ses côtés pour construire, ou plutôt à ses pieds, dans l'humilité et la confiance en celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Deux versets que je vous laisse pour terminer. 1 Pierre 2, versets 4 à 5. Approchez-vous de lui, donc de Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen.
terminons par la prière. Seigneur, nous voulons dire fort et tôt ce matin que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous savons que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous te bénissons car tu t'es révélé à notre cœur. Et nous te prions de nous aider à marcher avec toi jour après jour. Et te faire confiance pour toutes choses. Merci pour cette journée. Nous nous confions en toi. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous.